Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les bonnes ondes de Radio Air d'Otan et Air d'Otan Gaillac. Aujourd'hui, je suis installée dans le studio d'Air d'Otan Gaillac avec Thomas à la technique que je salue et que je remercie. Je suis aussi accompagnée d'une invitée, Marie Cavaillé-Fernault. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être dans notre studio gaillacois et d'être venue vers nous. Vous êtes venue avec un livre dans les mains qui s'appelle « Les vignes de la paix ». C'est une première partie, un premier tome et qui va intéresser bon nombre des auditeurs et des auditrices de notre département qui parle de vignes bien sûr, mais pas que. On va le découvrir, mais avant, dites-nous, qui êtes-vous ? Vous êtes une Tarnaise ?
Oui, tout à fait. Je suis même née à Gaillac, ce qui n'est plus possible aujourd'hui puisque nous naissons à Albi désormais depuis longtemps. Permettez-moi quand même de vous remercier, Clémentine, de m'accueillir à Radio d'Otan. Donc, je suis gaillacoise, issue d'une famille de vignerons depuis X générations, mais la vie m'a emportée loin de Gaillac et je suis devenue historienne.
Historienne, et vous êtes spécialisée dans l'histoire?
Oui, bizarrement, je suis spécialisée dans l'histoire allemande, mais depuis 10 ans, je travaille exclusivement sur l'histoire du vignoble de Gaillac.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des aspects particuliers? Parce que le vignoble de Gaillac, on peut l'aborder de plein de façons différentes. Dans votre travail, vous avez suivi des...
Tout à fait. Mon choix délibéré a été de me pencher sur l'histoire des femmes et des hommes qui ont fait le vignoble. J'ai constaté en effet qu'il y avait depuis 30 ans parution de nombreux livres sur Gaillac, la ville elle-même. Sur le vignoble, il existe des écrits techniques et parfois difficiles à lire. Et donc mon choix a été délibéré d'associer les recherches historiques à l'écriture littéraire afin de toucher et atteindre le plus grand nombre de lecteurs possible, tout en mettant le focus sur l'histoire particulière des hommes et des femmes du vignoble au XXe siècle.
C'est un premier roman ?
Oui, tout à fait. Je suis l'auteur de très nombreuses nouvelles, mais j'ai pensé qu'à un moment donné, il faut grandir et aller s'acheminer vers le Graal. Je pense que pour un écrivain, le Graal, c'est le roman, qui est un travail qui dure longtemps et qui est exigeant. Et donc, je suis en effet passée des nouvelles à ce premier roman.
Qui s'intitule « Les vignes de la paix », comme je viens de le dire. Et là, c'est un premier tome que l'on a entre les mains, sous-titré « Recommencer 1919-1926 ». Est-ce que vous pourriez brièvement nous brosser un petit peu le tableau que vous peignez dans ce livre-là ?
Bien sûr. Donc, il s'agit de la reconstitution minutieuse de toute la société vinicole et viticole du Gaillacois au sortir de la Première Guerre mondiale. Il faut se représenter que nous sortons tous en 1919 d'une guerre effroyable qui se termine en novembre 1918. Et donc, cette société qui a perdu un nombre considérable d'hommes va être notamment confrontée à un vignoble dévasté, lequel est dévasté parce qu'il manquait et les hommes et les bêtes et les produits pour traiter contre le mildiou notamment. Et donc, la période 1919 est une période où on va tenter peu à peu et très lentement de revenir à la vie, de recommencer ces vies de vignerons et de vigneronnes dans le Gaillacois. Et c'est pour cela que le premier tome se consacre seulement à 7 années, car la vie est tant écrasée par la guerre, les deuils et le chagrin, il y a des morts dans toutes les familles, qu'il faut beaucoup de temps et pour reconstruire le vignoble et pour retrouver un chemin vers la vie.
On suit des personnages, des familles ?
Tout à fait. Alors, ce que j'appelle la société entière, bien sûr, sont un nombre considérable de familles qui vivent dans un village fictif, lequel s'appelle Roumanins. Il est situé, le lecteur le mettra où bon lui semble, mais il est situé, disons, entre les premières côtes et le plateau Cordé. Et là, on suit en effet, dans cette communauté villageoise, je dirais, un nombre considérable de personnages et de familles. Ils sont peut-être 80 ou 100, mais n'ayez aucune crainte. Ils sont tous très bien identifiés et nous rentrons dans leur intimité de vignerons et de vigneronnes au fur et à mesure des pages du roman.
D'accord, mais alors pourquoi vouloir raconter la vie de ces gens sur ce temps-là ? Qu'est-ce qui vous porte en fait à travers cette transmission littéraire ?
D'abord, je pense qu'il faut faire ce qui n'existe pas. Ce roman n'a pas de précédent et pas d'équivalent. Nul n'a osé aller à l'écriture littéraire sur l'histoire des vignerons et vigneronnes du Gaillacois. Deuxièmement, je pense qu'à Gaillac, j'ai observé que la ville se transformait, qu'il y avait beaucoup de néo-Gaillacois, donc en partie ignorant notre histoire. Et pour ce qui est du temps, je pense que l'échelle la plus confortable, c'est celle que nous transmettent nos parents et nos grands-parents, à savoir c'est au maximum un siècle. Et c'est pour ça que l'histoire commence en 1919 et non pas en 1517 ou en 1618, parce que c'est trop loin de moi. Et par mes grands-parents, notamment mes grands-pères, qui étaient tous deux vignerons et qui ont été soldats de la Première Guerre mondiale, je touche moi-même la guerre de 14. Donc ce siècle-là, c'est bien le nôtre, avec un passage de la tradition à ce qui est l'actuelle modernité. Voilà les raisons pour lesquelles je me suis consacrée pendant 8 ans à ce travail-là.
Et alors, tout à l'heure, hors micro, vous me disiez que ce n'est pas un roman de terroir. Vous avez l'envie, certes, d'être ancré localement sur le territoire, le Gaillacois, mais de faire paraître quelque chose de plus universel, de plus large.
Tout à fait. Alors, soyons clairs, je n'ai rien contre le genre, le roman de terroir, mais ce n'est absolument pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est de donner une sorte d'écrin au vignoble de Gaillac, afin de le mettre en valeur. C'est bien le vignoble de Gaillac qui est le héros du livre, le personnage principal, mais l'ambition consiste à le rendre représentant de la viticulture ou de la paysannerie française qui traverse avec lui le XXe siècle. Il n'est pas question pour moi de réduire l'identité de Gaillac, il est au contraire question de l'ouvrir à ce qu'elle peut représenter dans l'ensemble de la France. Et en effet, je dirais que le Gaillacois mérite une ambition nationale et je compte la porter en librairie.
On en reparlera tout à l'heure justement de la vie de ces ouvrages. Dites-nous, on a bien compris que vous êtes basé sur votre travail, expérience, vos compétences d'historienne. Mais alors concrètement, quelles sont les sources sur lesquelles vous êtes basé pour raconter autant quelque chose de fictif, mais qui est quand même fortement ancré dans une réalité.
Oui, vous avez raison, c'est les deux aspects principaux de cet ouvrage. Il y a un socle de réalité avérée que je suis allée rechercher dans les archives départementales. C'est 2 années de travail où l'on collecte les faits à partir des documents de l'époque, lesquels faits donnent déjà des directions de récit. Ma liberté d'écrivaine est quand même très très contrainte, puisque prenant en considération les réalités d'une époque et désirant les transmettre de manière minutieuse et exacte, si je vous dis qu'il fallait 6 grammes d'anhydride sulfureux pour par hectolitre, croyez-moi, c'est avéré. Donc toutes les données techniques, politiques, économiques, viticoles et viticoles sont celles du temps. Mais là-dessus, moi, ma vocation, c'est de créer une histoire fictive et romanesque afin d'accueillir le lecteur dans le récit. Imaginez si j'avais fait un traité technique sur l'usage du sulfate de cuivre dans le vignoble. Je pense que cela aurait intéressé 3 personnes. Non, l'ambition, c'est de gagner à la cause de notre histoire commune des lecteurs et donc, pour cela, d'avoir une honnêteté intellectuelle rigoureuse en lui disant « Cher lecteur, chère lectrice, vous pouvez être assuré de la vérité historique et laissez-vous ensuite porter par l'histoire romanesque qui en découle. »
Nous sommes avec Marie Cavaillé-Fernault sur Air d'Autan et Air d'Autan Gaillac avec cet ouvrage Les vignes de la paix. Première partie, recommencée 1919-1926 chez Véron Éditions. Il est paru il y a combien de temps cet ouvrage ?
Il est paru là au début juin, c'est tout à fait récent, c'est un nouveau-né, donc je le confie avec émotion à toutes les femmes et les hommes qui le prendront dans leurs mains.
Et donc il y aura une deuxième partie, on l'a
oui,
bien
tout à
compris.
Fait. Elle paraît à Noël, ça sera mon cadeau au Gaillacois à Noël. Je m'efforce que la deuxième partie, donc 1927-1939, vous le voyez, là ce seront 13 années puisque la vie a recommencé et a repris son rythme normal. Et donc le livre, ce deuxième tome qui s'appellera Tenir, paraîtra en décembre.
D'accord, bien, on fera un plaisir d'en faire écho sur nos ondes. Dites-nous, on a choisi tout à l'heure ensemble hors micro d'offrir aux auditeurs et auditrices une petite lecture d'un extrait de cet ouvrage.
Je souhaite le présenter, cet extrait. Oui. C'est un des personnages principaux qui est fils de petit propriétaire avec un manque chronique d'argent et qui dispose lui-même d'une cave assez misérable à l'occasion d'aller visiter les caves de la cave coopérative Saint-Michel qui a été créée en 1903 et qui en 1922 est toujours dans les locaux de l'abbaye. Le passage que je propose à vos auditeurs, c'est donc la différence abyssal entre la cave très moderne, la cave coopérative donc de l'abbaye Saint-Michel très moderne aux yeux de ce héros du roman et sa cave personnelle qui ne l'est pas du tout.
Merci d'avoir planté ce décor, on vous écoute.
Il réfléchit qu'il pourrait commencer par là, par les changements onéreux et cependant nécessaires, autant dire par la fin et la visite de la cave coopérative de Gaillac. Un moment de sidération et déjà d'enthousiasme, il l'avait senti. Mais tout cela était si grand, si moderne, si extraordinaire que Paul n'avait pas dit grand-chose, sentant dans ses jambes, ses bras, des élancements, des envies de mouvement, quelque chose qui le tirait vers la vie, les transformations à opérer, les vieilleries à jeter. 4h30 durant, guidés par le directeur de la cave viticole et les deux maîtres de chais, ils avaient déambulé dans les immenses caves voûtées de l'ancienne abbaye. Les cuves maçonnées, celles en bois, pouvant contenir jusqu'à 500 hectolitres de vin chacune, s'y tiennent alignées. Et après elles, et tout aussi ordonnées, les centaines de fûts, demi-muits, barriques bordelaises, toutes impeccables, aussi bien tenues et entretenues que des princesses. Jusqu'à 20 000 hectos de vin y sont logés, assemblés, soutirés, amenés par un monte-charge au rez-de-chaussée, soit 7 ou 8 mètres plus haut, pour remplir des wagons réservoirs ou des milliers de bouteilles, lesquelles sont étiquetées, mises en caisse et tout comme les fûts, chargées sur camions et expédiées. Les presque 500 adhérents qui apportent non leur vendange, mais les mous, les blancs secs déjà fermentés et les doux déjà filtrés, peuvent être satisfaits et tranquilles. Leur vin sera bien soigné et bien vendu. Partout, Paul voit à l'œuvre une organisation rationnelle. Après avoir remarqué que pas une saleté, pas une poussière, même pas une toile d'araignée accrochée à une voûte ne viennent atteindre à l'unité impeccable des lieux, il conclut à une splendeur, un monde qui tourne rond. Après cette visite, revenu à la croix plantée, il a retrouvé son père dans leur cave. Il n'a pas pu tenir en place tant des envies monstrueuses de tout foutre en l'air dans ce fatras zigzaguait en lui. Elle levait en sa pensée une formidable énergie pour taper du pied contre ces seaux, cuviers d'étain ou bassines en cuivre dans lesquels pleuraient des filtres, mijotaient des entonnoirs entourés de chiffons, ces boîtes de mèches de soufre ouvertes et laissées vides dans les trous des murs noirs comme le passé, encrassés par les décennies et les mauvaises habitudes, avec des bâtons de craie, des thermomètres cassés, des pipettes, des bouts de ficelles et des bougies, des verres sales. Il avait été pris d'un besoin de passer un gigantesque coup de balai, de faire disparaître ces restes de vendanges et de marques séchées sur place, ces rigoles vineuses qui couraient çà et là sur la terre battue, puis de soulever ces muits dont l'odeur souvent aigrelette le désespère. Ces barriques trop lourdes et trop vieilles pour être nettoyées selon les règles qu'il venait d'apprendre. Il voulait les faire toutes rouler dehors, arracher les poutres sur lesquelles elles reposent, ce tindoul pourri, noir, puant. Et pourquoi pas mettre le feu à tous ces bois rances misérables ou les dépecer à la hache comme un sauvage ? Il avait préféré alors sortir de la cave et aller affûter sous l'hangar des piquets de châtaigniers. Soit, il l'avait après coup reconnu, un usage plus utile de la hache qui, en sus, l'avait peu à peu calmé, effaçant en lui le déchirement entre le monde rond et parfait de la cave coopérative et le monde vieillot, mal soigné, brinque-ballant de la cave à la croix plantée.
Merci beaucoup Marie Cavaillé-Fernault pour cette lecture d'un extrait de cet ouvrage « Les vignes de la paix », première partie 1919-1926 aux éditions Vérone Éditions. On est toujours ensemble dans les studios d'Erdo Tangaillac et maintenant qu'on a un petit peu planté sous tout ce décor-là, eh bien, ce livre, ce tome et puis le prochain qui va sortir à Noël, l'idée c'est de les faire vivre et de les faire rencontrer les hommes et les femmes d'ici et d'ailleurs. Alors, vous avez déjà proposé des présentations, il me semble, au Mas Pignou. Et bien, l'idée, après, c'est de continuer à aller à la rencontre des lecteurs, des lectrices et puis des gens, tout simplement.
Tout à fait. Je pense qu'un livre ne vit que par les lectrices et les lecteurs qui le manient et le lisent. Et donc, je me fais un devoir, mais aussi un grand plaisir d'aller à la rencontre, d'abord, bien sûr, pour ce qui est de la ville de Gaillac, d'aller à la rencontre donc, des lectrices et des lecteurs potentiels. Et je compte les servir, au sens où je me déplacerai dans tous les villages. Et je ne crains pas d'avoir, peut-être à une soirée, 4 personnes. Il n'y a rien de grave. Mon plaisir, ma vocation, c'est d'aller raconter cette histoire à toutes les oreilles qui prêteront attention à ce récit. Et donc, je compte en effet consacrer beaucoup de temps en octobre et novembre à aller dans le plus grand nombre possible de lieux et peut-être commencer avec la communauté d'agglomération et les bibliothèques. Tout cela est en construction. C'est un véritable travail.
Si parmi les auditeurs et auditrices, des personnes seraient intéressées pour vous faire intervenir, vous auriez un contact ?
Souhaitez-vous que bien sûr, je peux donner peut-être mon adresse mail.
Oui.
Mon adresse mail, alors j'ai un autre nom que Cavaillé, mon deuxième nom est Fernault, donc mon adresse mail c'est tout simple, c'est Marie-Dominique Fernault, en un seul nom, en un seul mot, Fernault s'écrivant Fernow, @gmail.com.
Marie-Dominique Fernault, tout attaché, @gmail.com, voilà pour contacter cette autrice, mais si on veut acheter ce livre.
Oui, il est quand même dans les librairies. Alors, il faut souvent le commander. Vous savez, aujourd'hui, les éditeurs réduisent les coûts autant qu'ils le peuvent. Et donc, le livre n'est pas forcément présent partout. Mais il est commandable dans toutes les bonnes librairies. Et nous en avons, notamment une très bonne à Gaillac, Albi, Carmo, Groyer, etc. Et puis, bien sûr, les sites modernes. Donc, je ne veux pas faire la publicité. Vous permettent aussi de les commander d'une autre manière.
Vous n'avez pas de site internet ?
Ah non, non, non. Je suis encore dans une modestie. Vous savez, mon monde, c'est les bibliothèques, les archives et les pièces pour écrire. Donc non, je n'ai pas de site internet.
Très bien. Ben, en tout cas, merci d'être venu pour présenter votre travail au micro de Erdotan et Erdotan Gaillac. On vous souhaite une très belle continuation avec ces deux ouvrages-là, donc Les vignes de la paix. Quel beau nom, parce que finalement, la paix.
Oui, c'est un nom qui allie donc quelque chose, un objet concret, les vignes, à une notion abstraite, la paix, bien que tout le monde sache vivre en paix. Et il est vrai que le prochain tome s'appellera Les vignes du progrès et le troisième Les vignes de l'avenir.
D'accord, mais là, j'ai aussi un troisième tome.
Il y aura un troisième tome qui arrivera jusqu'à aujourd'hui, mais là, donnez-moi un petit peu de temps, car l'histoire est exigeante et il me faut quelques années.
Bien, on vous laisse tout ce temps-là. Marie Cavaillé-Fernault, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Et puis à très bientôt.
Oui, très volontiers.
Avec des autres tomes. Merci à Thomas, à la technique, et merci à vous pour votre écoute.
Es-tu mon bilacé de vigno d'olio de mel, tu mon bilacé calou. turrado in fe. Pudes cantar cigalos, espas fil de la ney, sus nostro terno blanco, espas nascuteris. Et tu, mon village, secle per secle basti de sac et de cardome, secle per secle nourri, pudes cantar cigalos, nostro place es així, cride la tramontano, nos fa la paz partir. E diz un village Espace nascut des.